les par actualité.
Bonjour, ici Hélène Denis. Bienvenue à l'émission Les Paractualités du 1er février 2018. En manchette aujourd'hui, des patients en fauteuil roulant soignés entre deux civières. Voiture autonome, il y a urgence d'agir selon un comité du Sénat. Plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022. Une association de personnes sourdes porte plainte contre l'ambulance Saint-Jean. En entrevue, je reçois Frédéric Palardy, directeur des Impatients, qui vient nous parler d'un beau projet qui prend son envol aujourd'hui avec un vernissage, et Jérôme Bobin, directeur général de Humanité et Inclusion Canada, nouvelle identité de marque pour Handicap International. Des patients en fauteuil roulant soignés entre deux civières. La situation de l'unité des urgences à la Cité de la Santé de Laval ne s'améliore pas. Après un appel à l'aide survenu sous la forme d'un sit-in des infirmières ce week-end, le syndicat qui représente les préposés et préposées aux bénéficiaires dénonce une situation qui met en péril la qualité des soins prodigués aux patients dans l'urgence. Selon le syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, les administrateurs du centre hospitalier n'ont pas été à l'écoute des besoins de ses employés depuis plusieurs semaines, une situation qui aurait culminé lundi alors que l'urgence débordait dangereusement. Selon les chiffres avancés par le syndicat, l'urgence a frôlé les 80 patients, alors qu'elle compte en temps normal 52 places. Des photos qui ont été fournies à TVA Nouvelles permettent de constater que la surcharge était telle que des patients en fauteuil roulant ont dû être installés entre des civières dans le corridor de l'urgence, dans l'attente d'être soignés. D'autres ont été déplacés dans des salles étroites, habituellement destinées à la rencontre des médecins avec les patients dans la salle d'attente. De ces 12 salles, 10 étaient occupées par des patients de l'urgence. Pourtant, à 13h30, alors que plus de 75 patients se trouvaient dans l'unité, seulement 3 préposés aux bénéficiaires étaient en poste. Le nombre recommandé pour une urgence comble de cette ampleur, 52 places, est de 5, dénonce le syndicat. Sur lapresse.ca, les véhicules autonomes pourraient réduire les risques d'accidents de la route et permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite de se déplacer plus facilement. Les véhicules autonomes risquent de prendre les gouvernements de court, comme l'a fait Uber, s'ils ne se préparent pas dès maintenant à légiférer, prévient un comité du Sénat dans un rapport dévoilé lundi. Il y a urgence d'agir pour assurer la sécurité des Canadiens, selon le comité sénatorial permanent des transports et des communications, qui anticipe que ce type de véhicule sans conducteur sera sur les routes dans 10 ou 15 ans. Bien qu'elle puisse apparaître pour plusieurs comme étant tirée d'un film de science-fiction, le comité estime que cette nouvelle technologie révolutionnera rapidement le quotidien des Canadiens, pour le meilleur ou pour le pire. Les véhicules autonomes pourraient réduire les risques d'accidents de la route et permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite de se déplacer plus facilement, mais ils pourraient également être vulnérables aux pirates informatiques. Les approches pour encadrer cette technologie émergente varient d'une province à l'autre et même d'un ministère à l'autre à l'intérieur du gouvernement fédéral. Le ministère des Transports a le pied sur le frein, tandis que le ministère responsable de l'innovation a le pied sur l'accélérateur, a imagé la sénatrice Patricia Beauvais. Les sénateurs invitent ces deux ministères à collaborer pour trouver la bonne façon d'encadrer cette nouvelle technologie pour en maximiser ses bénéfices et réduire les risques. Le Musée des beaux-arts de Montréal et les Impatients ont le plaisir de nous inviter au vernissage de la présentation éducative « Créer pour s'aimer » en compagnie des participants, des collaborateurs, des artistes. Ça se passe aujourd'hui même à compter de 17h30 et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Frédéric Palardy, directeur des Impatients. Bonjour, Monsieur Palardy.
Bonjour, Madame Denis. Merci de me recevoir.
Bien, ça nous fait très plaisir. Rappelez-nous, Monsieur Palardy, la vocation de l'organisme « Les Impatients ».
Les Impatients, depuis 25 ans, je pense que c'est important de le noter, on vient en aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale via la création artistique.
Oui. Et qu'est-ce que la présentation éducative « Créer pour s'aimer » C'est beau, ça, « Créer pour s'aimer ».
Oui, c'est un beau titre. Mm-hmm. Hein? « Créer pour s'aimer », en fait, c'est une exposition des Impatients qui ont participé au programme du Musée des beaux-arts. Un superbe programme qui Éduque Expo, voilà, oui. Du Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, des Impatients de la Rive-Sud, de notre atelier de la Rive-Sud, du 6 Montérégie-Est. Donc, ce sont des Impatients qui chaque semaine, vont au Musée des beaux-arts, en fait, plusieurs semaines. Ils font une tournée des expositions. Et ensuite, ils retournent à l'atelier puis ils créent en fonction de ce qu'ils ont vu.
Ah oui, d'accord. Ils vont chercher leur inspiration au musée.
Voilà. Mm-hmm. Et ils sont supervisés par des médiateurs du musée qui sont vraiment extraordinaires avec eux. Il faut le souligner. Également par Dominique Payette, donc, qui est notre animatrice. Et plusieurs fois, ils sont allés aller-retour. Tout est pris en charge par le musée. L'exposition est prise en charge par le musée. Donc, c'est vraiment un très, très beau programme.
Et qui sont les personnes qui ont réalisé les œuvres?
Que des Impatients.
Que des Impatients. Il y en a combien en tout qui ont participé à Créer pour s'aimer?
Oh, plus d'une vingtaine.
Ah oui?
Il y a des œuvres collectives et il y a des œuvres également solo.
Mm-hmm.
Donc, moi, je ne l'ai pas vu encore. C'est le vernissage ce soir, mais j'ai vu quelques photos. C'est vraiment magnifique.
Ah oui, mais c'est toujours beau ce que les artistes des Impatients, en tout cas souvent, là, moi, ça me frappe. Puis je trouve ça très coloré souvent. Hein?
C'est très coloré, c'est très joyeux, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer.
Oui.
Je pense qu'il y a beaucoup de...
Mais justement, pouvez-vous nous en décrire quelques-unes des œuvres?
Ben disons, c'est difficile à décrire à la radio, mais...
Non.
Non.
Ah c'est un beau défi.
Oui, c'est un beau défi, d'accord. Alors, ben je peux vous dire que la période où ils sont allés, entre autres, c'était durant l'exposition de Chagall. Donc, vraiment des œuvres inspirées de Chagall.
Avec ces personnages qui flottent.
Oui, très colorés. Mm-hmm. Il y a aussi des sculptures. En fait, il y a une sculpture, celle-là, je pourrais vous la décrire parce que je pense que j'ai une photo à quelque part.
Ouais.
Mais il y a des sculptures de mains ou d'objets qui comme s'ils traversaient le mur.
Ah oui?
Oui, des petites sculptures. C'est vraiment très, très beau. Je vois des mains, des têtes. C'est vraiment le fun. Et il y a également une grande robe. Est-ce que c'est une vache habillée ou tout en couleur? Donc, grandeur, je vous dirais, là, sur la photo, je lui donnerais 5-6 pieds facilement.
Bon. Ça nous donne envie d'aller faire un tour à cette présentation. J'imagine que les Impatients sont impatients de montrer leurs œuvres.
Oui, et le sentiment de fierté d'exposer dans le plus grand musée à Montréal.
Oui, certainement.
Je pense que c'est juste ça, ça fait la job. C'est vraiment, vous devriez voir là, comment ils sont fiers.
Oui.
D'exposer dans le même lieu que des grands artistes.
Bien, j'imagine. Est-ce que vous attendez pas mal de personnes à ce vernissage?
Oui, et l'exposition dure 2 mois, ça mm-hmm. aussi. C'est, je pense qu'il faut souligner là, les efforts du musée. C'est pas, ils prennent pas ça à la légère.
Non.
Je pense que c'est important. C'est pas une petite exposition de 2 jours. Là. OK, on expose des petites œuvres qu'ils ont faites. Il y a vraiment des efforts derrière ça.
Oui, oui.
La mise en place est magnifique. Le site est magnifique. Donc,
ben oui, c'est dans l'espace J.A. de Sèvres.
Exactement.
Oui.
Donc, c'est vraiment très beau. Très, très beau. Ça vaut le déplacement.
C'est gratuit.
C'est gratuit, définitivement. Oui, on attend du monde la dernière fois parce que c'est la deuxième année que ça se fait en collaboration avec le musée et notre atelier de la Rive-Sud.
Mm-hmm.
Et il y avait eu beaucoup, beaucoup de monde.
Bon, alors on vous en souhaite autant aujourd'hui, même plus.
Oui.
Frédéric, oui?
Oui, Non, parce que encourager l'art impatient, c'est important.
Oui, parce qu'on peut voir les œuvres, mais est-ce qu'on peut aussi se les procurer?
Non, elles ne
Non,
sont
non.
pas à vendre.
D'accord.
Oui.
Mais il y aurait peut-être une autre exposition où on pourra avoir accès, où on pourra acheter les œuvres éventuellement?
Définitivement, on a notre encamp par le mois d'amour qui vient au mois de mars cette année, qui sera à l'édifice Walder. Je vous rappellerai, ou j'espère que vous me rappellerez pour qu'on s'en parle, ce sera du 15 au 28 mars, et à ce moment-là, il y aura des œuvres d'impatients d'artistes professionnels et de dons de collectionneurs.
Parfait. Alors, c'est noté, Frédéric Palardy, on va se reparler. En attendant, je vous souhaite un agréable vernissage et puis que tout ça soit vraiment un succès. C'est jusqu'au 1er avril.
Oui.
C'est le vernissage de la présentation éducative « Créer pour s'aimer ». Merci.
Un grand merci à vous. Bonne journée.
Bloc régional dans lelézard.com, plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022. Pardon, en vue d'améliorer les services offerts aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, et leurs familles, le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevary, annonce au nom de la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, des investissements récurrents de 342 800 $ dans la région de la Gaspésie, ainsi que de 40 600 $ dans la région des Îles-de-la-Madeleine. De plus, ces deux régions se voient accorder des montants additionnels non récurrents de respectivement 89 390 et 50 000 cette année. Soulignons que ces investissements découlent du plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022, dévoilé le 21 mars dernier. Les 35 actions qui le composent contribueront à réduire les listes d'attente et à rehausser les services offerts. Rappelons que ce plan résulte du premier Forum québécois sur le trouble du spectre de l'autisme qui s'est tenu en février 2016. Lors de cet événement, des personnes ayant un TSA, leurs familles, des experts et des acteurs du domaine ont eu l'occasion d'échanger et de se prononcer sur les actions à mettre en priorité. Pour soutenir les mesures annoncées, le gouvernement du Québec consacrera à l'ensemble de la province un investissement annuel récurrent de 29 millions, ainsi qu'une somme additionnelle de 1,25 millions qui servira à soutenir la recherche, la formation et la production d'outils d'intervention en lien avec le trouble du spectre de l'autisme. De plus, 11 millions s'ajoutent également pour la première année du plan d'action afin de réduire les listes d'attente. Le plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022 est disponible à msss.gouv.qc.ca/TSA. Dans le courrier du sud.ca, l'école Reach de Saint-Lambert aura son nouveau gymnase, un investissement de près de 2,5 millions de Québec dédié à la construction d'installations sportives a été accordé lundi à l'école d'éducation spécialisée Reach de Saint-Lambert. Cela faisait plusieurs mois que l'administration de l'école pour les jeunes handicapés était en pourparlers avec le gouvernement pour concrétiser son projet de gymnase dans l'un de ses deux pavillons. L'école, qui accueille une centaine d'élèves avec des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage en raison d'une déficience intellectuelle, ne possédait aucun espace intérieur adapté pour les activités sportives. Nous faisons nos exercices dans une salle de classe et nous organisons nos courses dans le corridor de l'école lorsqu'il fait trop froid pour sortir, relate Mme Goyetche. Nous n'avons pas non plus d'espace pour recevoir les parents, faire des soirées spéciales, des spectacles ou des conférences. Nous allons désormais être en mesure de proposer du volley-ball, du baseball ou encore du basketball dans un espace sécuritaire. L'annonce a eu lieu dans l'enceinte de l'école Reach, en présence du maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, de conseillers municipaux, de représentants de la commission scolaire Riverside et de membres de l'administration de l'établissement. Une superficie d'environ 350 mètres carrés est prévue pour ce gymnase qui sera situé à l'arrière de la bâtisse du boulevard Queen, Il sera érigé sur une partie du stationnement existant. Un appel d'offres sera lancé dans les prochaines semaines et les travaux devraient débuter dès que possible. Et on parle maintenant avec Jérôme Bobin, directeur général de Humanité et Inclusion Canada, nouvelle identité de marque pour Handicap International. Bonjour, M. Bobin.
Bonjour, Hélène.
Nouveau nom pour votre réseau mondial, nouveau logo, pourquoi?
Bien, tout simplement parce que notre réseau, il a 35 ans désormais. Hein. On a été créé en 1982. Mm-hmm. Et puis, il y a un couple d'années, on s'est mis dans un nouvel exercice stratégique pour les 10 prochaines années. On s'est projeté en avant sur les 10 prochaines années. Et l'un des piliers de cette nouvelle stratégie, c'était d'adopter une nouvelle marque, en fait, un nouveau nom qui soit plus en adéquation avec ce qu'on fait désormais sur le terrain et puis surtout ce qu'on a envie de montrer à l'extérieur.
Est-ce que le nom Handicap International disparaît totalement?
Alors, pas totalement. Hein. On a vécu 35 ans avec Handicap International. On a fait des très belles choses. Il va rester en fait présent sur certains territoires et pour des raisons bien différentes. Déjà, sur notre terrain d'intervention, je vous rappelle qu'on travaille dans 60 pays à travers la planète, mais il y a certains terrains où il y a des contraintes administratives qui sont un peu plus compliquées qu'ailleurs. Donc, on va prendre le temps tranquillement de changer nos tablettes en fait sur ces terrains-là. Mm-hmm. Et puis, en Europe, où Handicap International était très connu, est une organisation très supportée en France, en Belgique, dans toute la francophonie, on a décidé de laisser un peu de temps aux donateurs, tout simplement à ceux qui nous soutiennent, pour s'habituer à ce nouveau logo, hein, parce qu'il y a un nouveau logo et puis à ce nouveau nom.
Oui, c'est ça. Qui a réalisé la nouvelle identité et le nouveau logo?
Alors, le nouveau logo, en fait, ça a été confié à une agence qu'on connaît bien ici au Canada, puisque c'est l'agence Cossette.
Oui.
C'est un peu par hasard, finalement, parce que on avait lancé un appel d'offres à travers la planète en demandant aux agences de communication, celles qui voudraient bien travailler avec une ONG qui n'a pas un énorme budget pour un chantier aussi fort que celui-là. Et puis, Cossette, au fil des vagues de sollicitations, est restée l'agence en lice et puis a décidé de travailler, a obtenu l'appel d'offres pour travailler avec nous pour donc changer notre identité à travers toute la planète.
Et là, il y a une campagne institutionnelle qui accompagne cette nouvelle identité de marque. Est-ce que ça se poursuit? J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes liés à la promotion de la nouvelle marque Diane Tell, Feist, il y a le comédien Anthony Lemke, Axel Red.
Oui, Pascal Bussière aussi, qu'on connaît bien ici au Québec, qui a fait la voix de notre capsule en fait francophone. Alors oui, bien évidemment, on n'allait pas changer d'identité sans le dire à personne, donc il est prévu qu'on fasse une campagne, mais pas... pas rapidement, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de diffuser tout ça. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, on utilise beaucoup Internet pour diffuser nos outils. Et puis, on a la chance d'avoir quelques partenariats médias qui vont faire que, de temps en temps, les lecteurs de certains journaux nous verront apparaître de ci et là dans les journaux et dans les médias imprimés. La radio, aujourd'hui, on est en train d'expliquer. D'ailleurs, c'est intéressant d'être à la radio pour expliquer une identité visuelle. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que ce nouveau logo, cette nouvelle marque, elle est très frappante. Parce qu'on a décidé de mettre en avant un logo qui représente une main.
Oui.
La main qui va aider, la main qui va accompagner, qui va donner un coup de main, mais aussi la main qui va dire stop.
Ouais.
Et notre organisation, elle est engagée contre beaucoup de choses qui nous déplaisent, des discriminations ou l'utilisation d'armes explosives qui vont créer des handicaps. Donc cette main, elle va aussi nous permettre de réaffirmer un certain nombre de refus de certaines situations à travers la planète.
Alors, c'est un beau projet dont vous êtes fier, j'imagine.
On est très fiers. C'est un peu compliqué pour ceux qui travaillent pour anciennement Handicap International. Je vous ai dit en début d'entrevue qu'on a passé 35 ans sous ce nom-là. Donc, ça a été un peu un risque qu'on a pris pour nos propres employés, nos propres collaborateurs. Et finalement, maintenant que la nouvelle marque est sortie, on se rend compte que c'est pas un soulagement, ça serait pas beau, mais c'est en tous les cas tout un vent positif de changement qui vient en nous. Il faut savoir que le mot handicap, vous le savez très bien chez Canal M et tous ceux qui nous écoutent, déjà au fil des années, il a pris une connotation très négative ces dernières années. Et puis en anglais, notamment handicap en anglais.
Oui, pour certains, c'est très péjoratif.
Oui, c'est encore plus péjoratif qu'en français. Donc, ça nous semblait pas être à la hauteur de tous les gens qu'on accompagne sur le terrain, de toutes les missions qu'on fait sur le terrain. On voulait vraiment adopter un nom qui soit beaucoup plus porteur de valeurs, d'espoir et de positif. C'est pour ça qu'on a choisi Humanité, naturellement, parce qu'on travaille avec Humanité, avec tous les gens qu'on accompagne. Et puis, Inclusion, parce que c'est ce qu'on fait depuis 35 ans, faire en sorte que les personnes en situation de handicap et les personnes les plus vulnérables soient incluses dans la réponse humanitaire, dans les projets de développement, dans les activités de développement socio-économique.
Et de ces temps-ci, qu'est-ce qui vous occupe à Humanité Inclusion Canada?
La même chose que juste avant le changement de marque. On est toujours très impliqué dans toute la zone du Moyen-Orient et la crise syrienne, avec tous les réfugiés qui fuient et qui s'entassent dans les camps, les Rohingyas au Bangladesh qui fuient la Birmanie. On reste très présent à travers la planète. On est présent dans 57 pays, mais nous, d'ici, on a un regard un peu plus important sur la Colombie, avec toutes les mines antipersonnelles, sur Cuba, la participation des personnes handicapées au développement économique de Cuba. La Bolivie aussi, on regarde comment se portent les personnes en situation de handicap.
Alors, Jérôme Bobin, vous ne partez pas, vous êtes toujours le directeur général de Humanité de Handicap International qui change de nom?
Eh oui, j'ai eu l'impression de changer d'entreprise ou d'organisation, mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la même, avec une plus belle identité encore que celle d'avant.
Oui, merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous rappelle le nouveau nom, Humanité et Inclusion Canada, puis ça va prendre de l'ampleur et tranquillement, lentement mais sûrement, Handicap International va devenir Humanité Inclusion partout.
Et voilà, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Chose promise, chose due, précision à propos d'un chiffre que je remettais en question hier. Je n'étais pas sûre de ce que j'avançais, alors je voulais juste faire une précision. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord lundi au sein du Conseil national du travail pour étendre les critères permettant aux parents de bénéficier d'un congé de soins lorsque leur enfant présente un handicap, ont annoncé la Fédération des entreprises de Belgique, la FGTB et la CSC dans des communiqués distincts. Patrons et syndicats se sont également accordés sur une nouvelle augmentation de 14 % des allocations d'interruption pour des parents isolés qui prennent une interruption de carrière pour s'occuper d'un enfant. Cette nouvelle augmentation permettra à l'allocation nette de dépasser la norme européenne de pauvreté qui est de 1157 euros, l'équivalent de 1,700, donc 1700 $ canadiens. Je parlais de millions hier et je n'étais plus sûre et j'avais raison de ne pas l'être parce que c'est l'équivalent de 1700 $ canadiens. Voilà, la mise au point est faite. L'Association des personnes sourdes de la vallée de l'Okanagan, OVAD, en Colombie-Britannique, a déposé une plainte au Tribunal des droits de la personne pour que l'ambulance Saint-Jean embauche des interprètes en langue des signes dans ses cours de premiers soins. C'est une nouvelle issue du site de Radio-Canada. C'est une plainte que les organismes qui aident les personnes sourdes en Colombie-Britannique entendent depuis des années, indique Kate Feeney, l'avocate qui représente le groupe de plaignants. Selon l'avocate, l'ambulance Saint-Jean, qui est le plus grand organisme au Canada à fournir des formations en premiers soins, a une pratique de longue date qui consiste à ne pas fournir d'interprète en langue des signes lorsque cela est nécessaire pour adapter ses services à un étudiant sourd dans un cours. L'OVAD a déposé sa plainte le 24 janvier au nom de toute la communauté des personnes sourdes de la Colombie-Britannique qui a vécu un préjudice à l'égard de cette absence d'adaptation, note un communiqué de l'association. Les personnes sourdes ont besoin d'obtenir les compétences en réanimation et en premiers soins comme tout le monde. Il s'agit d'une question de vie ou de mort dans une situation d'urgence, affirme Gordon Rattray, trésorier de l'OVAD. L'avocate des plaignants espère qu'une entente hors cour pourra être conclue avant que la cause ne soit entendue par le Tribunal des droits de la personne. Et je termine avec deux rafales. CI3S des Laurentides, le plus grand employeur de la région, le CI3S des Laurentides, souhaite faciliter l'accès aux emplois en santé et services sociaux grâce à une journée de recrutement hors du commun qui se tiendra le 3 février prochain. Plus de 1 000 visiteurs y sont attendus. Le réseau de la santé et des services sociaux propose plus de 300 différents titres d'emploi, et ce, autant de types professionnels de la santé que de personnels de métiers de bureau. Les gestionnaires des hôpitaux de la région, des centres d'hébergement, des centres de réadaptation, des CLSC et des autres installations du CI3S des Laurentides seront présents et des rencontres de présélection se feront sur place. D'ailleurs, afin de simplifier la visite, toutes les personnes intéressées peuvent déjà créer leur profil en ligne à la section carrière du site santelaurentides.gouv.qc.ca. Les visiteurs sont attendus de 9h à 14h aux Galeries des Laurentides, situées au 500 boulevard des Laurentides, à Saint-Jérôme. Les derniers rayons d'un célèbre coucher de soleil, l'anecdote n'est pas un secret très bien gardé. La photo que les Québécois brandissent chaque fois qu'ils vont chez le médecin est un souvenir de voyage croqué par le chasseur Robert Larivière en Abitibi en 1974. Louis Larivière, frère de l'artiste derrière le cliché, était l'un des cofondateurs de la jeune agence de publicité Cossette, chargée de concevoir l'identité visuelle de la carte lancée en 1976. D'emblée, le nom « carte soleil » qui est passé dans l'usage n'était pas prévu. Le soleil et les sapins n'ont pas complètement disparu de la cuvée 2018, mais ils apparaissent maintenant dans une version pâlie en filigrane. À la RAMQ, on promet que la refonte assurera une sécurité accrue pour les usagers. On veut prendre les devants sur les faussaires, commente la porte-parole Caroline Dupont. Ce n'est pas un hasard si la nouvelle carte ressemble au permis de conduire, car elle sera désormais produite par la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci à mes invités, Frédéric Palardy, directeur des Impatients, qui vous invite au vernissage de la présentation éducative Créée pour s'aimer, c'est à compter de 17h30 au Musée des beaux-arts de Montréal aujourd'hui même, et Jérôme Beaubin, directeur général de Humanité et Inclusion Canada, qui nous parlait de la nouvelle identité de marque pour Handicap International. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable fin de journée. Ben, enfin, pour moi, il est midi. Bon appétit. Puis on se retrouve la semaine prochaine puisque l'hyperactualité, ça se passe du lundi au jeudi ou sinon, vous allez faire un tour sur notre site Internet de Canal M de Vues et Voix. À très bientôt!